France Culture.
Il y a différentes façons de poser des questions. Il y a d'une part le fil de conversation, parce que certaines personnes n'ont pas forcément un micro ni une caméra. Comme les questions des étudiantes et étudiants commencent à arriver, je vais en grouper deux. Je t'avais dit qu'elles étaient bien les questions des jurés.
Magnifique. Merci pour toutes vos questions. Et puis, Sephora, mais alors là, hein, tu reviens quand tu veux.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Depuis 12 ans maintenant, le prix Roman des étudiants France Culture récompense une œuvre de la rentrée littéraire élue par un jury d'étudiants en invitant des milliers de jeunes gens à découvrir les textes et à rencontrer leurs autoristes partout en France. Nous encourageons, auprès des enseignants et toute la chaîne des relais et passeurs de littérature, le goût pour la lecture et le débat autour des textes. Les étudiants et étudiantes ont donc lu 5 livres qu'on avait sélectionnés pour eux et ont choisi Aval, premier roman de Sephora Pondy. Elle est notre invitée avec 3 jeunes jurés qui m'accompagneront pour l'entretien en direct, comme ça on fait passer le goût de la radio aussi. Ce premier roman est un texte affamé où deux êtres se mangent la peau et le reste. Cannibalisme de la gloire et du désir d'être vu, histoire de bouche, histoire de double, histoire d'amitié. Beaucoup de monde autour de la table du Book Club aujourd'hui pour évoquer ce texte. Joie de célébrer ce prix. Bienvenue à toutes et à tous, on est ensemble pour une heure. Bonjour Sephora Pondy.
Bonjour Marie.
Bravo et bienvenue dans le Book Club de France Culture. Bientôt, paraît-il, c'est vous qui serez au micro.
C'est mon rêve.
Pour présenter cette émission ou une autre, pour que ce message soit clair et passé à toutes les oreilles qui nous entendent. Ça vous irait à merveille. Votre roman Aval a paru aux éditions Grasset à la rentrée littéraire 2025. Il a été très remarqué, notamment par les jurés de ce prix qu'on vous remet aujourd'hui. Vous êtes lauréate du prix roman des étudiants France Culture 2025, mais votre vie est riche. Avant la radio, vous faites un peu de théâtre, parce que vous êtes pensionnaire à la Comédie Française. Vous signerez en janvier 2026 une première mise en scène. Vous étiez aussi, par ailleurs, il y a pas très très longtemps, dans le très beau film d'Alice Diop, qui s'appelle Fragment for Venus. Dans une autre version de ce conducteur, il y avait le titre de la mise en scène de janvier 2026. Ce sera au Studio Théâtre de la Comédie Française. Ça s'appelle Bestiole, et c'est mis en scène par Lachlan...
C'est écrit par Lachlan Philpott, qui est un auteur australien.
Écrit par Lachlan Philpott. Bienvenue.
Merci.
On est ravis que vous soyez là. Et on est ravis aussi qu'il y ait autour de cette table Mathilde Rocchetta, Vivien Grandjean et Clémence Tanguy. Salut à tous les trois. Bienvenue. Merci. Peut-être que c'est le moment, puisque vous faites partie de ce jury du prix roman des étudiants, que vous nous racontiez un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que tu veux commencer, Mathilde, dire où est-ce que tu es étudiante et puis comment tu as vécu et traversé cette aventure du prix du roman des étudiants?
Bien sûr. Alors moi, je m'appelle Mathilde Rocchetta, j'ai 22 ans et je suis étudiante au sein de l'Université Paris Nanterre en journalisme culturel. Moi, j'avais un rapport à la lecture à l'origine qui était assez compliqué. Je faisais un peu partie de ces lecteurs maudits qui commencent des livres sans les finir. Puis ensuite, j'ai découvert les longs trajets de métro et c'est comme ça que la littérature m'est venue.
Merci Nanterre.
Merci Nanterre. Et non, j'ai pris connaissance de ce prix, notamment grâce à mon master, à ma faculté. Et j'ai englouti les livres beaucoup trop rapidement parce que je pense que j'étais trop stressée d'avoir
cette
responsabilité.
Peut-être que tu les as lus une deuxième fois après. Alors.
Et je les ai lus une voilà. Fois, tranquillement enfin. Et j'ai adoré cette expérience et surtout de pouvoir rencontrer derrière un écran ou en vrai les auteurs et autrices.
Alors justement, ça consiste en quoi ces rencontres? On a diffusé une petite partie de la rencontre que Sephora Pondy a fait avec Arnaud Laporte. Donc ça, c'était en ligne. Il y avait plein de monde connecté en ligne ce jour-là. C'était une soirée. On vous voit tous les deux à l'écran et puis avec toutes les petites les petits ronds et les initiales des étudiantes qui posent des questions. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que vous lisez et ensuite vous participez à ce genre de rencontre.
Alors ça dépend, il y en a qui sont organisés donc en ligne comme vous l'avez dit et d'autres dans les universités. Mm-hmm. Clémence et moi, je sais qu'on a eu l'occasion et l'opportunité d'interviewer Yakuta Likavazovic pour son roman Au grand jamais et je pense que tu me rejoins quand je dis que c'était des expériences extrêmement enrichissantes et humanisantes pour les auteurs et autrices qu'on connaissait uniquement à travers leurs plumes à l'origine.
Ça donne vraiment un autre rapport au livre, ça permet d'avoir plus de profondeur, de mieux comprendre le récit.
Ces rencontres-là, tu veux dire?
Oui.
Et toi, tu étudies où, Clémence?
Et alors, du coup, moi, je suis à Sciences Po Rennes. Et pareil que Mathilde, j'ai eu, du coup, l'opportunité de recevoir une actrice au sein de mon université.
Une autrice?
Une autrice. Pardon, oui.
Elles sont pas toutes actrices. Oui. C'est pour apprendre. Et autrice, actrice.
J'avais tellement de talent, je me mélange à force.
Des autrices, en tout cas, ouais.
Et du coup, le prix, je l'ai connu, je pense, au sein des bibliothèques, en voyant la mention.
À l'université ou en ville?
Non, de manière générale, dans les bibliothèques, dans les librairies, en me baladant. Et c'est justement ce prix qui permet de mettre en valeur certains ouvrages et qui m'a permis de connaître justement ce prix, de vouloir y prendre part.
Pour quelle raison tu voulais participer à cette aventure?
Alors,
toi, tu lisais plutôt?
Moi, j'ai toujours beaucoup lu dans ma jeunesse, sauf que quand j'ai commencé les études, j'ai arrêté. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion de reprendre. Mmh. C'est l'occasion, il y a 5 livres qui ont été choisis en cette rentrée littéraire. J'en ai besoin. J'en avais besoin avec tous ces partiels, avec les échéances. Je voulais penser à autre chose.
Tu veux dire comme une autre lecture qui sorte de lecture scolaire,
moins intellectuelle et vraiment plaisir.
Ou pas, parce que franchement, ce sont plutôt des textes qui pensent. Mais...
C'est des très beaux textes.
C'est peut-être un autre rapport à la pensée.
Mais on peut plus s'évader, voilà. Je dirais que c'est un autre monde et ça fait réfléchir beaucoup, évidemment. Mais c'est avant tout du plaisir. Et ça, je l'ai retrouvé grâce à ce prix.
Et t'as participé à des rencontres en plus de celles que tu as animées?
Non, alors il y en avait une autre, il y en avait une à Lorient, et j'aurais bien aimé y aller, mais malheureusement ça pouvait pas se goupiller avec mon emploi du temps, c'était un peu compliqué. Mais en ligne, oui, il y avait des rencontres avec d'autres auteurs, autrices, et c'était très enrichissant.
Et ça nous permet évidemment de remercier tous ceux qui sont nos relais en ligne et en physique, dans les librairies, dans les bibliothèques, les profs aussi. Il y a pas très longtemps, Laëlia Véron était à ce micro. Elle-même est enseignante et elle disait qu'elle faisait un club de lecture basé sur le prix roman des étudiants. Parce que c'est une première, on va dire, une première base pour commencer à discuter lecture et à débattre autour de textes. Et puis, toute l'équipe quand même de la communication de Radio France qui est à fond, de France Culture, pardon, qui est à fond dans ce prix-là et qui permet que tout ça ait lieu. Vivien, toi, tu étudies où?
Je suis à l'université de Paris-Cité, donc je suis en L3, en lettres et métiers de l'écrit. Et pour ce qui est de la connaissance du concours, moi c'est grâce à une professeure, dans le cadre d'un cours qui s'appelle le journalisme culturel, donc où on est amené à faire des revues, à visiter des expos, et donc après à en tirer des critiques.
La chance.
Oui, c'est plutôt passionnant en soi, et donc c'est assez riche, et ça permet de divertir un peu toutes les formes d'art. Et donc moi, c'est comme ça que j'ai eu connaissance du prix, donc c'est comme ça qu'après, voilà, je me suis dit, super, j'ai pu un peu approfondir chaque lecture, et ouais.
Et t'as participé à des rencontres aussi?
Oui, bah notamment.
Et c'était dur de voter, il se trouve que cette année, le vote a été particulièrement massif pour le roman Aval de Sephora Pondy, mais vous avez un peu débattu aussi avec vos camarades, est-ce qu'il y avait de la place pour ça?
Oui, complètement, oui, il y avait une forme de débat, notamment, je dirais pas un débat qui cherche à comment dire...
Une conversation, quoi.
Ouais, voilà, il n'y avait pas forcément une argumentation en disant, moi j'ai lu, donc forcément ma lecture est la meilleure, mais plutôt essayer d'étoffer ce qu'on avait pu oublier, ou d'aller dans une direction pour, je sais pas, creuser ce qu'on aurait pu omettre.
De bonnes discussions, alors. Ça, ouais, c'est, voilà, quand on ressort enrichi de la lecture de l'autre, c'est que c'est bien. Ici, Sephora Pondy, au Book Club, on commence toujours par ce qu'on appelle le questionnaire lecture. C'est comme ça qu'on fait connaissance avec nos invités. On se demande quel parcours ils et elles ont eu ou pas avec les livres.
Alors moi, je voulais, dans un premier temps, vous questionner sur votre rapport à la littérature et à la lecture. On a pu lire que Les Malheurs de Sophie, la comtesse de Ségur, avait marqué vos premières lectures. Est-ce que vous gardez un héritage de ces lectures d'enfance? Est-ce qu'elles ont participé aussi à la construction de votre plume, peut-être?
Alors, c'est une super question que j'adore, parce qu'en fait, moi, je sais qu'en écrivant, j'essaye de rester justement très très proche de mes premières sensations de lectrice d'enfance, parce qu'il y a là-dedans, je trouve, dans les lectures d'enfance, une sorte de territoire à la fois de terreur, de sensualité, d'aventure, qui est encore très très neuf. Et c'est justement avec ça que je débute. Quelque part, Aval, en un sens, il est très... Enfin, le livre est très très pétri de terreur enfantine. De terreurs enfantines, parce que la peur d'être engloutie, bien notamment, sûr, c'est quand même une peur très très primaire, très archaïque.
Très archaïque, ouais.
Et presque proche de l'enfance, d'avoir peur des monstres sous le lit. Donc en fait, mes lectures... d'enfance, d'adolescente, sont très 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 présentes encore en moi.
Et donc là, on évoquait, Mathilde évoquait Les Malheurs de Sophie. Est-ce qu'il y a d'autres lectures qui vous auraient marqué?
Il y a aussi un livre qui s'appelait Premier Amour de Tourguenieff, que j'ai lu au collège. Le Diable au corps de Raymond Radiguet, ça avait été assez important. Parce que j'avais quand même le goût des choses un petit peu pas licencieuse, c'est pas le mot, mais en tout cas, ça m'intéressait de comprendre ce qui se passait par là, parce que j'étais très très jeune et que c'était pas des conversations qui avaient cours dans ma vie de famille. Donc j'allais chercher un peu dans la littérature le trouble, en fait.
J'ai une question qui touche peut-être plutôt l'enfance. Mm-hmm. Est-ce que vous avez grandi dans un milieu où il y avait des livres ?
Non. Non. Mais par contre, mon père m'en achetait pas mal. Il m'emmenait dans un endroit qui s'appelait La Caverne, qui était une sorte de... Oh, comment je pourrais expliquer ça ? Un magasin un peu de briques et de broc où il y avait des... Il y avait des meubles, des instruments de musique et beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. La Bibliothèque Rose, notamment. Donc, c'était très, très vintage. Et il m'emmenait là-bas et il m'en achetait plein. Mais par contre, c'était pas quelque chose qui avait... ma maison, mon appartement débordait pas de livres. Mais en revanche, on m'en offrait.
Et donc, dans votre roman Aval, quand elle est chez la thérapeute, votre protagoniste, l'âme, évoque, et là je vous cite, des livres qui font se prosterner à l'adolescence. Est-ce que vous diriez que... L'âme, elle est proche de vous sur ce point-là. Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont fait vous prosterner ?
Ah oui, j'ai de la chance.
Et lesquels ?
Je pense à un livre de Balzac qui s'appelle Le Lys dans la vallée, okay. Qui avait été assez majeur. Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, ça avait été très 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 fort aussi.
Vous lisez ça à quel âge ?
Oh.
Non, parce que bon.
Ça, je pense que en l'occurrence. Pendant ma deuxième, troisième, je précise ça parce que ça avait été très marquant. Cet été-là, j'avais redoublé comme une...
Et vous lisez pendant l'été où vous allez redoubler ?
Non. Ouais. Je me rappelle bien de cet été-là, il était très, très précis dans mon esprit. Donc ouais, j'étais assez jeune quand même et très snob. C'est ça qui a joué.
Dans votre rapport aux lectures ?
Oui, quand même un peu, j'avais envie de me distinguer.
C'était vraiment un effet de distinction, quoi, dont vous aviez conscience à l'époque ?
Oui, j'en étais consciente quand même.
Mais comment est-ce qu'à cet âge-là, on sait ou on saisit que lire certains livres nous font éventuellement sortir du lot ?
Je crois que... Mais c'est vrai qu'avec le recul, j'étais un peu trop jeune pour saisir ce type de subtilité sociologique, mais pourtant elles étaient là.
Mais qui sont très précises et documentées par ailleurs. Ouais.
Oui, c'est vrai, mais je crois que c'est précisément parce que j'étais dans une situation... parce que j'étais à la marge. Et donc en fait, c'est un poste où on peut quand même observer... beaucoup de choses, notamment la norme. Et donc savoir à peu près ce qui va faire que on va pouvoir obtenir des choses, obtenir une forme de validation, obtenir de se retrouver dans des espaces qu'on désire. Donc je pense que tout ça était déjà quand même assez clair dans ma tête.
Comme des tactiques sociales, finalement, plus ou moins inconscientes. Ouais, c'est ça.
Après, évidemment, j'avais vraiment le goût de la lecture.
Ça n'empêche pas, bien sûr, ouais.
C'est ça, ça venait vraiment du cœur. Mais quand même, j'étais quand même consciente de ce que ça pouvait, de ce que ça faisait jouer, en fait.
Est-ce que ça vous a donné une certaine force aussi ?
Ah oui, complètement. Ah, vraiment, ça a été vertical.
Ok. C'est-à-dire ?
Disons que... Je sais pas pourquoi ça m'émeut, c'est absurde.
Non, pas du tout, c'est hyper beau. Moi aussi, ça m'émeut. Si vous voulez, on peut être deux, franchement. C'est très beau de dire que c'est vertical, le rapport à la lecture.
Ça, c'est... Oh là là. Je pense que c'est que la journée était trop émotion. La journée était trop, trop riche en émotions. Alors, au-delà du fait que c'est rentré dans des mondes, et que ça, c'est quand même assez passionnant quand on a juste une vie à soi, et qu'on ouvre un livre et qu'on a l'impression que le monde est vaste, c'est très très beau comme sensation à l'intérieur. Et à côté de ça, ça donne du vocabulaire, ça donne de la pensée, ça arme, ça permet de se positionner, de développer un esprit critique, de savoir avec quoi on est contre, ce à quoi on adhère, ce qui nous fait vibrer. Enfin, c'est vertigineux.
Dans votre livre, l'âme dit aussi « Ce que papa et les livres m'ont appris, c'est que tout était possible. » Est-ce que vous mettez sur le même plan le fait que, je sais pas, c'est quasiment, elle accorde la même autorité au livre qu'à son père ? Est-ce qu'il y a un rapport, je sais pas, entre autorité et respect ? Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet ?
Je pense que l'âme, comme moi, on a un rapport quand même à la figure tutélaire qui est assez forte, quoi. Moi, je sais que je suis assez sensible, parfois à mon corps défendant, aux figures d'autorité. J'ai beaucoup de respect pour le savoir, pour l'expertise. C'est vraiment quelque chose qui me séduit beaucoup. Et donc, c'est vrai que, en un sens, j'ai mis la littérature et mon éducation au même niveau. Ça a été, des choses... auxquelles je pouvais me référer. J'ai eu longtemps besoin de pouvoir me référer.
Et aujourd'hui encore, la lecture, elle occupe cette place chez vous ?
C'est moins passionnel quand même. C'est un peu moins passionnel. Même si des fois, il y a des livres comme ça qui viennent tout fracasser. Je pense notamment à Triste Tigre. Lui, il m'avait pas mal interpellé. Ça faisait un petit moment, je crois, que j'avais pas lu un livre qui était aussi costaud, quoi.
C'est le cas de le dire, ce texte de Neige Sino paru chez POL. Vous avez aussi un autre rapport au texte et peut-être à la lecture, parce que vous en jouez à la Comédie Française. Vous avez un rapport avec les textes de théâtre. À partir de quand vous commencez à lire du théâtre, c'est Séphora Ponzi?
Plus tard que lors de mes...
plus tard que les mémoires d'une jeune fille rangée de Beauvoir.
C'est arrivé au lycée. C'est arrivé au lycée parce qu'il y avait une surveillante de théâtre qui ouvrait une... Une surveillante de théâtre, non mais...
Une surveillante qui crée un atelier théâtre.
Et donc, comme je savais que ça allait, voilà, il y allait avoir quelque chose de l'ordre de la littérature, du texte, de l'oralité, comme j'écoutais aussi beaucoup de musique, notamment beaucoup de rap français, donc c'est ces intuitions qui m'ont poussée là-bas.
Vous écoutiez quoi à ce moment-là qui vous marquait en rap français?
J'écoutais un petit peu Médine. Après, j'écoutais aussi des choses un peu
plus... Ce soir en concert.
Ah ouais?
Demain, au Zénith.
Voilà, incroyable.
Demain, au Zénith, pardon.
Kerry James... Desporuti, après les choses un petit peu plus, on va dire un peu plus grand public, Booba, Sniper, mais quand même toujours un petit peu un goût d'une forme de, c'était comme des auteurs quoi, la rumeur, enfin il y avait quand même un petit, il y avait quand même le goût des auteurs qui était là très tôt, très vite et que je retrouvais dans cette musicalité là.
Et donc l'atelier théâtre, je vous ai fait faire un détour par le rap français.
Ça me fait préciser. Toujours plaisir de faire des détours par le rap français.
Le théâtre que vous découvrez à l'occasion de cet atelier.
Tout à fait. Et bon, évidemment, j'avais lu des livres de théâtre avant ça à l'école, puisque collège, lycée, dans les programmes en français, on est amené à avoir des livres entre les mains, des livres de théâtre. Mais là, c'est vrai que dans cet atelier, ça a créé un goût un tout petit peu plus, un peu moins académique. Et un peu plus proche de ce qui allait devenir mes obsessions théâtrales, notamment la tragédie.
Et dans ce genre-là de la tragédie, est-ce qu'il y a des textes qui ont emporté votre cœur particulièrement?
M'aider de Sénèque. Ça a été vraiment une méchante gifle, quoi. Ça a été très, très, très puissant. Très puissant.
Est-ce que vous savez dire pourquoi?
Je pense que ça... Alors déjà, le fait que Médée soit une étrangère, quand même, c'était un aspect assez crucial pour moi. Ça me permettait de me projeter. Ça créait quand même une forme de correspondance. Je me disais, ah tiens, si elle n'est pas du pays où elle vit au moment où la pièce s'écrit, c'est qu'elle a un rapport à l'étrangeté, à une forme de déracinement. Et ça me travaillait quand même un peu. Et puis le côté énorme, enfin l'énormité, l'outrance, la radicalité, la transgression, ça quand même, ça reste toujours un truc qui artistiquement m'attire beaucoup.
On a parlé du hip-hop vite fait et moi je voulais parler d'un discours. Ça a lieu à la remise des prix, mais cette fois-ci c'est le prix des Flammes en 2025. La chanteuse Théodora, qui a le parcours étincelant qu'on sait depuis, déclarait « Je le fais » en soulevant comme ça sa petite statuette. « Je le fais pour toutes les filles noires un peu bizarres. » Alors on va écouter Théodora. Boss Lady, c'est vous aujourd'hui la Boss Lady,
oh là là.
C'est Séphora Ponzi. Dans ce titre, elle dit « J'ai trop de bijoux sur mon cou, maman me dévisage, elle veut que je tège le shorty Dior et que je fasse la fille sage, elle aime pas mes cuissardes Gabbana, mon crop top Rihanna, c'est trop long, donc elle aime pas mon tissage. »
Même si tu veux, je sip. Baby, on peut juste sleep. Même si t'as mal, je skip. Freaky nasty girl, c'est moi la boss. Body fat, big class, hot tweet, so fast. Crois pas, négro, ghetto, baby, no. Tu seras jamais la seule car. Comment tu crieras au no? Ha, ha, ha. J'ai trop de bijoux sur mon cou. Maman me dévisage. Elle veut que je t'aille, je chante du Dior et que je fasse le visage. Elle aime pas mes cuissards, Gabbana. On croque top Rihanna. C'est trop long. On peut juste sleep, même si t'avales, je skip. Ok, boss lady, j'suis dans le vif du samedi. J'avais les gros dos, j'dis dire, je vais guilder. Ok, maintenant, cheat, même si tu veux, je sip. Baby, on peut juste sleep, même si t'avales, je skip.
France Culture, le Book Club.
Marie Richeux.
Un book club qui célèbre le prix roman des étudiants 2025 France Culture aujourd'hui, décerné à Aval de Séphora Pondy, paru aux éditions Grasset. Ce premier roman est un texte affamé où deux êtres qui ont la dalle se mangent la peau et le reste. Cannibalisme de la gloire et du désir d'être vu, la question raciale y est aussi traitée entre les lignes d'une alternance de récits. La voix de Tom, jeune homme blanc qui d'avoir été rejeté et malmené a nourri bien des violentes obsessions, et la voix de Lame, jeune femme noire et grasse, comme elle dit, qui rêve de succès et pressent qu'on veut lui faire la peau. Une histoire de bouche, une histoire de double et une histoire d'amitié. Aussi, on en parle avec vous, Séphora Pondy. Merci beaucoup d'être avec nous ici autour de la table du Book Club de France Culture. Et on en parle avec trois des jurés de ce grand jury étudiant, Clémence, Mathilde et Vivien.
Pour commencer, on se posait en effet la question du titre. Donc pour ce roman, vous avez fait le choix du titre Aval. Comment cette idée vous est venue ? Puisqu'on en perçoit tout de suite la dimension polysémique. Est-ce que vous l'aviez déjà imaginé dès le début ?
Oui, tout de suite, en fait, le titre a été là extrêmement rapidement, dès le début de l'écriture. Ce qui me plaisait, c'était d'avoir un mot qui, effectivement, soit polysémique, qui est quelque chose d'un petit peu sulfureux, un peu poisseux, un peu provocateur, évidemment, et qui puisse être un ordre. C'est très important pour moi, ça, cette chose-là, qu'il apparaisse comme un ordre, avec ce que ça a d'un peu choquant et d'un petit peu agressif. Et en même temps, comme c'est un mot qui est assez liquide à cause des A, du L et tout ça, donc il y a quelque chose qui... J'aimais la tension entre cet impératif et en même temps ce mot très liquide.
Quand vous dites ça arrive tout de suite, c'est-à-dire que vraiment vous vous lancez dans l'écriture, limite engagé par ce mot-là ?
Oui, complètement. J'avais envie de travailler sur la question du fait d'être... d'avoir l'impression d'être dépossédé, d'être englouti par un regard, par le désir de quelqu'un, surtout quand on est une artiste. Et c'est vrai qu'Aval, c'est ce qui m'est arrivé immédiatement dans la bouche.
Et est-ce qu'il y avait aussi le rapport entre avant-après ? Ça, vous y avez pensé aussi ?
L'amont et l'aval, moi je ne l'avais pas entendu comme ça, mais Clémence m'a dit ça tout à l'heure.
Ouais. C'est la première chose que j'ai imaginée, mais peut-être que je me trompais par rapport à ce que vous imaginiez, vous, je ne sais pas.
Ah mais moi j'adore qu'on cherche plusieurs... J'aime vraiment beaucoup ça. On peut vraiment passer beaucoup de temps à faire ça, c'est tout à fait mon truc. C'est vrai que ça ne m'avait pas frappé. Je pensais plus à avaler les couleuvres, par exemple.
Okay.
Mais je n'avais pas pensé à l'amont et l'aval, mais j'ai envie de tout décliner. J'ai envie de voir jusqu'où on peut aller avec ça.
Non, parce qu'on y reviendra, mais en effet, quand Clémence parle de l'amont et de l'aval, il y a aussi l'idée qu'il y a un événement et que c'est un pointé et que vous gravitez autour de ça dans votre écriture, c'est fort appondi avec une sorte de décompte temporel et il y a les choses qui viennent avant et puis cette fameux après et puis il y a il peut y avoir ça. Moi j'y ai vu aussi quelque chose de très pornographique, de très sexuel, très sensuel, mais comme il y a la question de la violence aussi, des représentations et que notamment le personnage du jeune garçon, il est façonné aussi par son rapport à des images sexuelles trop vite et trop violemment avalées. Donc il y a tout ça d'emblée, en effet, quoi, qui nous attrape, nous, dès le départ, avec ce titre.
Ah ben, j'en suis ravie, parce que c'est vrai que j'avais très envie d'être... Oui, en fait, c'est marrant que vous parliez de pornographie, parce que quand j'écrivais des notes à l'époque où j'ai commencé à écrire Aval, c'est un mot qui est ressorti.
C'est-à-dire quand ?
Il y a 2 ans, un peu plus, 2 ans et demi maintenant, d'accord, presque. Mmh. J'avais envie de quelque chose qui soit très... Une écriture qui soit assez... comment dire ? Assez sûre d'elle-même. Et très... du style et une forme d'élégance mais sur des sujets assez poisseux. Mmh. J'avais vraiment envie de travailler sur ce double mouvement-là.
Mais comme une sorte d'ambivalence ou de contraste entre les deux, quoi.
Oui, complètement. J'aime beaucoup, beaucoup les contrastes.
Alors justement, Mathilde, toi, tu voulais poser des questions.
Moi, j'avais une grande question sur les prénoms de vos personnages.
Oui.
Puisqu'au sein d'Aval, on retrouve donc le personnage de Romain, qui après une vague d'humiliation dans son école est finalement appelé Tom. Mais c'est aussi un personnage qui a donc cette double dénomination. Est-ce que c'est un peu aussi une manière pour vous de parler de cette double facette exposée au sein du livre ?
Oui, en fait, ce que j'écris dans le livre notamment, c'est à la fin du premier chapitre, c'est pas qu'une histoire de bouche, c'est une histoire de double. Et la question, effectivement, de l'avatar, c'est quelque chose qui m'intéressait pas mal, surtout dans un monde comme le nôtre, où on a beaucoup d'avatars virtuels, où la question quand même du masque, du persona, du double est très 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 présente. Et donc ça, c'était un fil que j'ai envie de tenir tout le long du livre. J'aimais l'idée qu'il, euh, qu'il soit comme une espèce de super-héros détraqué, quoi. Ouais. Généralement, les super-héros sont assez vertueux. Il y a Clark Kent et Superman, et Superman, en l'occurrence, est une version glorieuse de Clark Kent. Là, en l'occurrence, Tom est la version maladive de Romain Marais.
Et pour rester sur le thème des prénoms, par exemple, le personnage principal s'appelle Lam. Mm-hmm. Là aussi, on voit plusieurs interprétations. Est-ce que c'est Lam, Lam, L apostrophe A-M-E, ou Lame, le double sens, on voulait vous poser la question.
Alors, oui, bien sûr que j'ai pensé à l'âme au sens
spirituel
du terme. Et en même temps, j'aimais le côté tranchant de l'âme.
Oui.
Le petit couteau. Et c'est vrai que par rapport à l'anglais, je l'ai découvert là, cette année.
Ah.
Je ne le savais pas du tout.
Le fait que lame, c'est mauvais, boiteux, défaillant, c'est quelque chose qui ne marche pas très bien, quoi.
Je ne le savais pas, je l'ai vraiment découvert cette année, c'est fou.
Mais du coup, ça peut aussi décrire l'ambivalence des personnages, d'une certaine façon. Ouais. Fort et à la fois toujours une part de faiblesse.
Oui, dans le cas de l'âme, c'est vrai qu'elle, c'est à la fois, oui, du coup, l'âme au sens vraiment spirituel, et aussi la menace. L'âme, la menace.
Vivien voulait insister peut-être plus sur le personnage de Romain et
oui,
de Tom.
Sur le personnage de Romain, Tom, ou Tom, qui est quand même un personnage pour le moins troublant, incel, presque masculiniste, enfin complètement même, frustré sexuellement, rejeté. C'est une concentration de haine, on peut dire ça comme ça. Est-ce que le masculinisme, est-ce que c'était une intention dès le début de d'inscrire ça dans votre texte, ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure?
C'est venu au fur et à mesure, parce qu'au départ, Tom, il était écrit à l'origine comme une espèce d'ogre, pas spécialement malveillant, mais en tout cas dépassé par sa propre force, dépassé par un corps dont il n'arrive pas très bien à garder la maîtrise, et donc une sorte de monstre inoffensif au départ. Très rapidement, je me suis rappelé qu'on était dans les années 2020 et qu'il était hors de question qu'il ait l'air d'être complètement une espèce de bêta qui ne sait pas ce qu'il fait. Et donc oui, la question de l'incel est arrivée. Une fois que la décision a été prise, ça a été très très obsessionnel dans le texte. Même si j'avais envie que ce soit des mots qui n'apparaissent jamais, ça me plaisait de faire comprendre qu'on allait vers ce type de figure.
Mais de toute façon, j'ai l'impression que tous ces grands sujets qui sont plus des sujets plus sociétaux, on va dire, c'est fort appondi. Donc là, en effet, Vivien relève cette catégorie d'hommes qui vengeraient une sorte de réponse à une émancipation féminine, de réponse à leur propre frustration, de la même question que, on va dire, le sous-texte de la question raciale ou de la question postcoloniale, elle est jamais dite comme ça, mais elle existe tout le temps. On a vraiment l'impression que vous ne voulez pas faire un roman à thème, que c'est pas votre projet, quoi.
C'est complètement le cas. Je suis hyper heureuse de vous entendre dire ça, parce que, en effet, j'avais vraiment pas envie qu'on puisse le décoder par un mot-clé. C'était vraiment ma hantise. Par contre, en effet, ce que j'aime, c'est quand les choses sont assez lancinantes, quand elles sont souterraines, quand elles arrivent par en dessous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et donc, en effet, la question raciale est très, très, très présente, tout en étant travaillée d'une façon, implicite, souterraine. C'est ce qui m'intéresse le plus.
Mais parce qu'elle est aussi comme ça dans la vie, non? Elle est omniprésente, implicite, souterraine, et elle travaille toutes les relations des uns et des autres.
Surtout quand on se retrouve dans une situation comme la mienne, où je suis assez peu exposée à du racisme qui soit frontal. Il est beaucoup plus sophistiqué, évidemment.
Et bien plus terrible encore, peut-être, parfois. C'est l'archive de Marie Dariussec qu'on voulait vous faire entendre ici. Elle s'exprime il y a pile 20 ans, dans une émission littéraire qui s'appelait « Du jour au lendemain ». Elle parle de littérature et de son travail d'écriture.
La pensée, l'écriture, disons que ce sont des territoires qui se parcourent, qui s'explorent. Et quand j'écris un livre, je suis une exploratrice. Je ne sais pas du tout ce que je vais trouver. Parfois des pépites, parfois rien du tout. Oui, rien du tout. Ça dépend. On jette beaucoup de pages aussi. Mais j'ai la conscience, quand je commence un livre, je suis face à une espèce de forêt et je cherche l'entrée de la forêt. Et ça va être un petit sentier, ça va être un grand chemin, ça va être une clairière. Il faut que je trouve une entrée. Je le vois dans ma tête, comme disent les enfants. Et je me mets à entrer dans cette forêt qui est le livre à venir. Et je ne sais pas du tout par quel chemin je vais passer. S'il va falloir abattre des arbres, s'il va falloir rester longtemps dans la clairière. Et je me mets à suivre des fils, qui sont des phrases. Et je ne sais pas décrire ça autrement. C'est une exploration. Parce que quand je commence un livre, je ne sais pas comment il se termine. Je saute dans le vide à chaque fois.
Séphora Pandy, est-ce que ça vous parle, vous, cette exploration dans la forêt, comme on vient de l'entendre dans l'extrait de Marie Darrieussecq, cette façon de chercher un peu à tâtons et de pas savoir en amont ce qu'on va écrire?
Alors, même si j'adore Marie Darrieussecq, et notamment j'ai été une grande fan de son premier roman qui s'appelle Truisme, qui a été vraiment, je dirais, une des inspirations majeures pour Aval. Je crois que je fonctionne, bon après, c'est humblement parce que c'est mon premier, mais je fonctionne un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une image forte, une première image forte. Bon, évidemment, je sais de quoi j'ai envie de parler, mais... l'idée pour moi, c'est d'aller, décortiquer cette image, c'est de trouver comment la raconter. Je suis assez visuelle comme personne, et donc ça va plutôt être ça. Et souvent, il y a une histoire que j'ai envie de raconter, et du coup, je sais ce que je veux, et je pars à la quête de cette histoire, je vais la chasser. Donc c'est pas je suis pas prise, entre guillemets, au dépourvu. Il y a vraiment soit l'image, soit l'histoire qui est très claire, et je pars vraiment à sa conquête.
Quand vous dites que vous êtes très visuel, c'est-à-dire que vous écrivez par scène, vous voyez les scènes que vous écrivez?
Absolument. Ce qui a été à la fois ce qui a été très galvanisant pour moi et en même temps, ce qui a pu être une sorte de difficulté quand il a fallu construire le livre. Parce que j'envisageais vraiment le livre en séquence, comme si c'était un film, et donc par plan. Et donc en fait, j'avais du mal à mettre des liens, à mettre des connecteurs, et ça a été un peu une difficulté. Mais oui, c'est très très... Bon, évidemment, mon rapport à la langue est très très puissant, mais par contre, ça part vraiment d'une image.
Justement, on va parler de la construction, du rythme et peut-être de la tension que vous créez juste après un premier extrait de votre texte. Quand on entre dans le texte, on sent que quelque chose de cruel s'est passé. Un homme a un bout de chair noire entre les dents. Et le reste va nous dévoiler petit à petit les enjeux de ce croc. Bonjour Madame Canet, je suis Saïd Madani, gardien de la paix. J'ai la charge du suivi de votre plainte contre X, celle datant du 1er juillet 2018 pour harcèlement en ligne et menace de mort. Veuillez me rappeler au numéro qui s'affiche. Bonne soirée Madame. Il faut attendre qu'il me casse les vertèbres pour s'affoler. Qui pourrait-il être? Un phasme? Un oiseau de malheur? Quand je me balade dans le parc des Buttes-Chaumont, je guette tous ceux qui m'observent d'un air torve. Est-ce que la police a enfin une piste? Est-ce qu'ils l'ont retrouvé? Vont-ils me forcer à le confronter? Maintenant, ce sont mes paupières qui me grattent. Je n'y résiste pas. Mes ongles rongent la peau sensible et élastique. Est-ce qu'il a plusieurs personnes dans le viseur ou suis-je l'unique qu'il terrorise? Comment est-il? Il a quel âge? Où vit-il? Est-ce juste une ombre qui me traque? C'est peut-être un ami, quelqu'un que je connais, un homme que je prends dans mes bras, qui fait semblant d'être accablé quand je lui raconte cette histoire, qui répète qu'il est là pour moi, si t'as besoin de quoi que ce soit, appelle. Et qui, une fois chez lui, tape sur son clavier des mots qui m'anéantissent. Peut-être s'agit-il d'un inconnu qui m'applaudit dans le noir d'une salle. Peut-être qu'ils sont plusieurs, un cauchemar à deux ou trois têtes. Peut-être qu'il est dans mon entourage, qu'il m'écrit des textos tous les jours. Peut-être que je connais sa voix. C'est peut-être un homme que j'ai aimé et qui a dit m'aimer en retour. Ou juste un mec normal, un type sans aspérité. Un de ceux qui me brise une épouse ou une fille en cachette nimbée d'un beau sourire. De ceux qui se livrent à de lents exercices de sape. Si je suis la seule à subir ces mails, ceux où il menace de me faire éclater sous son poing, est-ce moi qui l'ai cherché? Est-ce qu'une nuit, alors que je dormais, il a pénétré chez moi et m'a pissé dessus pour marquer son territoire, pour pouvoir me tracer à l'odeur, me faire vriller à distance comme une toupie? Si je suis la seule, alors qu'est-ce que ça vaut? Suis-je en droit de me plaindre? Est-ce qu'il faudrait pas être plusieurs à crever pour que ma vie compte? Je ne suis plus sûre. En attendant de trouver des réponses, je me gratte frénétiquement les racines et prie le Dieu de ma mère pour que ce spectre ne me retrouve pas le premier.
« vous m'avez fait émerger, moi, à la lecture, une forme d'impatience, de par mille et une choses, notamment par le rythme, les séquences. J'ai eu le sentiment que tout le roman était comme un écoulement de sablier, où à chaque fois on est à J-15, J-12, et on rentre petit à petit, on sait qu'on va savoir, mais on ne sait juste pas quand. Et donc tout ça donne un sentiment d'impatience. Donc déjà, je voulais vous poser la question de est-ce que c'est voulu, ce sentiment-là, de vouloir faire attendre le dénouement au lecteur. Et au-delà de ça, tout l'ensemble du fil littéraire est travaillé par un style nouveau, du moins je trouve, vraiment à la fois poétique et brut. Et justement, est-ce que nouer poésie profonde et brutalité, la brutalité des mots, est-ce que c'est une autre manière ou une manière de représenter le réel?
Alors par rapport à la question de l'impatience, ça me fait plaisir, évidemment. Parce que je me rends pas du tout. En fait, c'est vrai que c'est un retour qu'on m'a beaucoup fait jusque-là, à savoir la question de la du côté un peu page turner. Et c'est vraiment, en toute honnêteté, quelque chose qui m'avait complètement échappé. Enfin, j'y songeais pas du tout en écrivant, pas du tout. Par contre, je me disais quand même que sans doute le compte à rebours, ça pouvait créer une promesse, une attente qui fait qu'on continue.
Qui est le début de chaque chapitre.
Absolument. Je m'étais pas du tout rendu compte de la question de l'impatience que ça pouvait créer, mais du coup, je suis ravie de le savoir. Et par rapport à la question de l'écriture, c'est vrai que moi, c'est ce qui me... Bon, déjà, merci beaucoup. Moi, c'est ce qui me plaît, en fait, à lire. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les personnes qui s'amusent à créer des images fortes dans une langue très châtiée, très étudiée, et en même temps... avec parfois une forme de brutalité, d'urgence et j'aime bien les choses assez graphiques. Et ça fait aussi partie de ce que moi j'ai aimé lire plus jeune. Je pense notamment à quelqu'un comme Henry Miller ou Louis Calafert qui ont cette texture. Et je suis très très intéressée par la texture.
Il y a aussi dans cette scène, Clémence.
En termes d'alternance, vous avez évoqué tout à l'heure la question des plans comme si c'était du cinéma. Moi, ça me faisait aussi penser à la théâtralité, comme si c'était des actes de pièces de théâtre avec un décor, des personnages un peu différents à chaque fois, même si on retrouve les deux protagonistes principaux à chaque fois. Est-ce que vous l'avez pensé comme ça un peu dans votre tête, grâce à votre expérience à la Comédie Française en tant qu'actrice, ou pas du tout?
Alors, effectivement, la question de la théâtralité, elle a eu lieu pour moi dans l'écriture d'Aval par rapport à l'espace. Je pense notamment à la scène entre Tom et ses amis dans la chambre d'hôtel à Disneyland Paris. Ça, il fallait, comme elle est très longue en plus, je me disais, ok, il faut que tu te... Enfin non, je me suis pas dit c'est venu naturellement, parce que c'est vrai que c'est une discipline que j'exerce beaucoup, notamment grâce à la Comédie Française. Mais je me suis dit, il faut que tu comprennes où sont les corps dans l'espace et comment ils bougent, où ils vont. Donc la théâtralité, elle a eu lieu à cet endroit-là. Par rapport à l'espace, par rapport à la notion de l'espace.
Moi, je voulais vous questionner surtout sur, à travers la lecture de ce passage, sur le rapport à la peau, qui est très présente quand même dans ce livre. Le personnage de l'âme fait passer ses émotions par la peau, elle se gratte partout, elle se gratte à tout, elle refoule, elle intériorise, ou justement, elle extériorise à travers la peau. Comment avez-vous envisagé, vous, ce rapport à la peau, dans le cas où on suit un personnage, une comédienne ici, qui désire à la fois être vue, mais qui paradoxalement cache ses plaies avec des foulards, par exemple?
C'est très juste, et c'est précisément ça qui m'intéressait, c'était de créer quelque chose d'insoluble, de créer du conflit, à savoir qu'est-ce qu'on fait quand on est une comédienne et que la peau, que notre visage, c'est véritablement l'endroit avec lequel on joue. Et si ce visage ne peut plus être regardé, qu'est-ce qu'il advient de notre vocation, qu'est-ce qu'il advient de notre avenir? Ça me plaisait de jouer justement sur ce double mouvement, et ça me permettait aussi, en passant par la peau, déjà d'expérimenter d'un point de vue littéraire, parce que d'un coup, c'est un défi, quoi, de se dire, comment est-ce qu'on raconte le bruit des ongles, comment est-ce qu'on raconte la démangeaison, comment est-ce qu'on raconte la purulence. C'était déjà très excitant de chercher à bâtir ça. Ensuite, ça me permettait de pouvoir parler de façon larvée de la question raciale. L'âme est une femme noire qui a des problèmes de peau, et ça pourrait vraiment être le début d'un ça pourrait être le début d'un d'une fable de La Fontaine, quoi. Enfin, vraiment,
ça me permettait non mais c'est vrai
ça me permettait moi aussi de de mettre en jeu cette question pour moi, à savoir la complexité que c'est d'être une femme noire dans un espace en France et dans des espaces blancs. Ça peut en créer des problèmes de peau.
Ouais, et avec à chaque fois la double idée de cette femme qui veut être vue mais qui est violentée par le regard. Et en fait, quels que soient les espaces où elle va, c'est-à-dire que bon, là, elle reçoit le coup de fil de cet agent de la paix, de ce policier qui prend en compte cette plainte. Et d'un seul coup, il y a toute la paranoïa qui se met en route et elle se demande comment est-ce qu'elle va pouvoir échapper à ce harceleur. Elle a l'impression qu'elle regarde partout, qu'elle est tout le temps épiée. Enfin, c'est un horrible regard. C'est un regard qui la violente et qui va ne faire que la violenter jusqu'au bout et jusqu'au pire. Et en même temps, elle ne peut pas se défaire du désir d'être vue. C'est-à-dire que c'est pas qu'une seule chose pour elle, le regard.
Ah, bien sûr, pas du tout. Et justement, ça me plaît que l'âme ait aussi la capacité d'assumer cette voracité dans le fait de vouloir être reconnue, vue, dévisagée même, enfin qu'il y a vraiment quelque chose d'assez assez assumé sur le fait sur le plaisir d'être un astre, enfin vraiment, c'est ça, je vais très très envie que ce soit pas du tout évacuée, au contraire.
Et qu'elle s'excuse de ça.
Ouais. Ah oui, non, pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'était très satisfaisant.
Mais c'est peut-être d'autant plus satisfaisant que non seulement elle ne s'excuse pas de vouloir embrasser le grand succès de comédienne auquel elle aspire, et qu'en même temps, ça la violente. C'est pour ça que c'est pas hyper simple pour elle de marcher sur le chemin de son propre désir.
Tout à fait. Tout à fait. Et en même temps, elle n'est pas prête à renoncer à cette... comment dire, le jeu en vaut la chandelle, en quelque sorte. Contrairement notamment à son amie Génia, qui elle a un rapport beaucoup plus critique par rapport cette soif absolue du regard des autres.
Justement, cette amie Génia, c'est un personnage très important. On écoute un deuxième extrait de votre texte. D'un amour à l'autre, Génia s'annonce. Je suis assise sur un banc en face d'une tour, à gigoter, les jambes sans raison, à espérer un signe. Une jeune fille noire et plus âgée, 13 ou 14 ans peut-être, vient à ma rencontre. En ces temps-là, l'altercation est latente. Il se joue dans nos villes des luttes de territoire qui contaminent tout. Il faut porter fièrement les couleurs de son quartier et ne pas redouter la tape avec les intrus. Je peux envoyer des garçons au tapis, mais la fille qui avance est d'une autre espèce. Elle est grande, avec un regard faucon. Elle pourrait fondre sur moi et m'entraîner. Ses tresses sont à la fois brunes et bordeaux, jonchées sur sa tête, pauvre en cheveux. Une acné légère couvre ses joues, et tandis qu'elle s'approche avec assurance, elle découvre un sourire exquis. « Salut, je te vois souvent traîner dans le coin. Moi, c'est Génia, tu t'appelles comment ?»« L'âme. »« L'âme ?»« Oui, comme un couteau miniature. »« Ah ouais, vous êtes sombre dans la famille. » Personne ne m'avait encore regardée comme ça. Je suis sûre qu'on a plein de trucs à se raconter. Pourquoi Génia m'avait-elle choisie ? Je rêve à des hommages jamais prononcés. À toutes les grandes filles qui traînent dans les villes où on s'emmerde. Celles qui n'ont plus l'âge des colos. Savent-elles qu'au pied de chaque tour, une petite les attend ? Une petite attend toujours celle qui va faire tomber sa vie à la renverse. Le monde s'ouvre quand elle te dit « suis-moi » et te saisit par la nuque. Quand ton amie t'élit au hasard sur une place déserte où elle plisse les yeux à cause d'un soleil qui fracasse, tu es une petite chose sans avantage. T'es la copine de personne. Et pourtant, c'est toi qu'elle veut. Pourquoi Génia m'avait-elle choisi ? Son amour m'a élevée. Dans sa chambre, dans les squares, ou dans des parkings souterrains traversés à grands pas, pour fuir l'ombre.
Génia est donc un personnage très important dans la vie de l'âme. C'est l'amie d'enfance. On vient d'ailleurs d'en écouter la rencontre, avec qui elle va passer des épreuves qui forceront leur résilience. Ce personnage occupe une place, j'ai presque envie de dire, névralgique dans sa vie. Elle a un regard parfois plus lucide, ou un autre regard du moins que celui de l'âme. Est-ce que l'amitié est une affaire de complétude? On dirait que l'une complète l'autre parfois. Est-ce que vous aviez ce désir de montrer ça?
J'étais très très émue.
Moi aussi, j'adore
de vous entendre lire. Ça m'a vraiment fait quelque chose. Oui.
Bienvenue dans cette journée, Sephora. Qu'est-ce qui se passe après 16h? Je ne sais pas. On va vous emmener faire du Super 8. De... On a plein de surprises dans notre sac. Pendant que vous reprenez vos esprits, je peux dire que Aval, paru aux éditions Grasset, vient d'obtenir le prix roman des étudiants France Culture 2025. Allez, sur l'amitié.
Alors en fait, il était évident pour moi que j'allais parler d'amitié dans Aval parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Au-delà du fait que ça prend une place dans ma vie à moi qui est colossale, la question de l'amitié, c'est vraiment un territoire littéraire qui me passionne. Et donc, c'était vraiment l'amour que j'avais envie d'explorer, c'était celui entre deux amis. Et j'avais très envie qu'en fait, tout le monde aime Génia. C'était vraiment ça mon objectif. Autant l'âme, qui est plus une sorte d'alter ego, elle a vraiment des aspérités et des côtés franchement discutables. Génia, par contre, je voulais que ce soit l'ami idoine, idéal, que tout le monde veut. Parce que j'ai eu la chance de recevoir ça, moi, par exemple. J'ai des grandes amitiés très profondes avec des personnes qui m'ont tout offert. Et c'est donc... Ça a été vraiment, pour moi, une évidence que de raconter une belle histoire d'amitié.
Et est-ce que, selon vous, Génia, c'est la personne qui fait découvrir la vie à l'âme, au-delà de l'horizon des banlieues, au-delà de l'horizon d'elle-même, peut-être ? Est-ce que sans Génia, l'âme, elle aurait été ce qu'elle est à la fin du roman ?
Non, c'est sûr que Génia est constitutive, en fait, du devenir de l'âme. C'est vraiment quelqu'un qui... C'est une forme de seconde naissance, avec ce que ça peut avoir, du coup, d'extrêmement intense et de peut-être un peu déstabilisant, vertigineux pour l'une et l'autre. Mais clairement, l'âme grandissait avec les doigts devant les yeux. Et dès qu'elle a rencontré Génia, tout s'est éclairé.
C'est beau ce que vous dites.
Merci.
Dans Aval, vous exposez une amitié donc, qui est très très forte, vraiment à l'image de deux sœurs. Génia, elle va venir cueillir l'âme au début de l'adolescence et la récupérer, juste après sa chute. Est-ce qu'en élaborant ce personnage, il y avait aussi une volonté de créer une sorte de guide, un peu de guide de retour aux racines ?
Disons que ce qui était sûr, que si retour aux racines il y a, c'était important pour moi que Génia ne soit pas dépeinte. Parce que souvent, je trouve que dans des... Or, je le dis vite, franchement, c'est pas tout à fait honnête ce que je vais répondre, mais dans les récits où il est question de transfuge de classe, on va souvent opposer la personne qui s'en va et celle qui reste, et qui est toujours une personne qui est pleine d'amertume et de jalousie, rentrée, et qui rêvait, en fait, d'être à la place de l'autre et qui ne l'a pas obtenue. Génia, c'est pas ça. Elle est très satisfaite de son environnement, de l'endroit où elle vit, du métier qu'elle exerce. Elle n'avait pas ce désir spécialement et donc c'est pas du tout, je voulais pas du tout en faire une espèce de personnage amer qui est là en train de personnage médiocre et amer qui aurait aimé vivre ce que l'âme vit, pas du tout. Elle est extrêmement alignée et très sereine avec sa propre existence, donc ce sont des racines, mais des racines pas du tout mortifères, vraiment des racines tout à fait salutaires.
C'est pas qu'il l'immobilise, mais qu'il la nourrisse d'une certaine manière. À un moment donné, votre personnage, Sephora Pondy, accède peut-être à la lumière, au succès. Elle est invitée en ville, on l'invite dans les dîners, et elle honore toutes les invitations. Et d'un seul coup, elle se retrouve à être comme ça, ballottée dans des conversations où elle est regardée, où elle est flattée. Et il y a une sorte d'ambivalence. Et vous-même, en tant qu'autrice, vous dépliez quand même une description de ces dîners, je sais pas comment on pourrait les appeler, mondains ou... Mondain, c'est comme ça qu'il faut dire, et où des choses très dans l'apparat se passent et pas beaucoup plus loin que ça. Et ça revient à la question du regard et des apparences. Quel regard vous portez vous-même sur ces endroits-là, certains endroits du succès ? Très longue question.
Disons que je pense que j'ai un rapport un petit peu ambivalent. En fait, comment dire ? Je pense que il y a un certain type de mondanité qui me font encore fantasmer, mais qui, je crois, n'ont plus tout à fait lieu d'être aujourd'hui. Je pense que j'aurais adoré, me retrouver dans des fêtes dans les années 70-80 avec beaucoup, beaucoup de flamboyance, où, du coup, il y a aussi une mondanité très forte, mais où j'avais l'impression que les gens, probablement, avaient plein de trucs à raconter, avaient beaucoup de fantaisie.
Ça, c'est des choses... Vous l'a raconté, vous l'avez vu, c'est-à-dire quand vous pensez quoi ? Vous pensez le palace,
c'est
Paris,
tout à fait à ça que
les tables modèles, les boîtes de nuit, c'est ça. Mais ça, comment vous en avez eu vent, ça ?
Comment c'est arrivé ? Je n'arrive même pas à le savoir. Je pense par la musique, probablement. Déjà par la musique, en fait. Par la musique, ce qui est déjà une grande... Enfin, c'était la porte ouverte vers le fantasme, hein, quand même. Donc, les musiques que j'écoute, une forme de, aussi de... Oui, de... Je pourrais dire de... Ouais, c'est les artistes, en fait, les artistes.
Les figures, quoi, c'est vraiment les étoiles, en fait. Exactement, enfin, c'est à la fois des top modèles, mais aussi des artistes, mais aussi des danseurs, mais...
Surtout les musiciens.
Pourquoi ?
Parce que j'écoute énormément de musique, c'est vraiment... J'arrive pas à comprendre exactement le lien qui me lie à la musique, mais c'est vraiment un média, enfin c'est vraiment un format artistique qui me plaît énormément.
Vous en faites pas, vous chantez, vous faites de la musique ?
Non, pas du tout. Enfin, je peux chantonner, mais c'est vraiment pas.
C'est encore une fois un rapport au corps.
Oui, au son, à la langue, au fait de faire bouger aussi. Donc oui, j'aime beaucoup ce genre de territoire-là.
Et pour finir, s'il fallait résumer en quelques mots, quelques phrases peut-être, même si je sais que ça va pas être évident, mais est-ce qu'il y aurait un message, un ou deux messages principaux que vous souhaitiez faire passer à travers ce livre ?
Je crois que peut-être le fait de... Et là, on pourrait rebondir sur Théodora en un sens.
Boss lady.
Enfin, rebondir sur Théodora, cette phrase est vraiment
pas la
meilleure.
On la gardera dans ce contexte.
Sur le fait de s'autoriser, je crois, en tant que personne enfant d'immigré, non blanc, racisé, s'autoriser probablement à s'emparer de la fiction d'une façon qui soit peut-être pas... s'autoriser à être des mauvais élèves, en fait. Je sais pas comment dire. S'autoriser à ne pas forcément faire que des récits qui seraient des récits, on pourrait dire... comment je pourrais expliquer ça ?
Des récits que vous pensez qu'on attendrait de ces enfants qu'on dit encore et toujours issus de l'immigration ?
C'est un peu ça. De s'autoriser à prendre des chemins de traverse, d'aller loin dans la fiction, d'aller loin dans la fiction, d'aller dans la fiction, en fait.
C'est quelque chose qui est très revendiqué aujourd'hui comme étant à la fois par les mouvements féministes, de dire bien il y a l'idée de nouveaux récits, que c'est en fabriquant des nouveaux imaginaires, mais aussi dans la militance écologique, fabriquant des nouveaux imaginaires pour déclencher des engagements politiques, et aussi sur le combat de l'antiracisme, c'est-à-dire c'est par de nouveaux imaginaires, c'est en ajoutant la fiction à des combats plus politiques que quelque chose va s'augmenter d'une certaine manière.
Je crois, humblement, il me semble, et surtout, je pense que moi, étant donné que je lis beaucoup de sciences sociales, par exemple, c'est vraiment des territoires qui me plaisent, et j'écoute beaucoup d'émissions sur YouTube, enfin, je suis très, 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 ou même des podcasts, je suis très tournée là-dessus, et en fait, ce qui pourrait parfois un peu me manquer, c'est un certain rapport quand même aussi à la légèreté, ou à la dérision, ou même à la séduction, ce que d'autres bords, que je ne citerai pas ici, font sans trop se gêner. Donc je me dis pourquoi pas s'emparer aussi de ne pas, je crois que il me semble que c'est pas grave, ne redoutons pas les paillettes.
Voilà. Quand je suis arrivée dans le studio, vous pouvez en témoigner.
Oui, c'est vrai.
J'ai regardé sous votre chaise et j'ai dit, c'est vous les paillettes?
J'aurais aimé, mais oui, moi je redoute pas les paillettes.
Donc franchement, fin mot de l'histoire, ne redoutons pas les paillettes. Et c'est l'heure de l'agenda. Dans le Book Club, on voulait vous parler d'une fête. Le festival d'Angoulême est donc annulé cette année, mais place aux fêtes interconnectées de la BD du 28 janvier au 1er février prochain, c'est-à-dire le week-end où a lieu habituellement le festival d'Angoulême, organisé par le collectif Girls Cut, qui a donc choisi le féminin plutôt que le masculin collectif. Né suite au mouvement du Girl Cut du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême 2026. Collective composée notamment d'autrices signataires d'un manifeste des 285 paru dans le journal L'Humanité le 17 novembre 2025 qui appelait au boycott de cette édition 2026 suite aux dénonciations de management toxique, de la mauvaise gestion de la société 9e Art Plus qui l'organisait, également accusée d'avoir licencié une salariée qui venait de porter plainte en 2024 pour un viol survenu en marge du festival. Ces fêtes interconnectées de la bande dessinée sont nées du désir, je cite la charte de l'événement, de célébrer la BD sous toutes ses formes en ouvrant des espaces joyeux, tiens, et inclusifs. L'idée n'est pas de monter un nouveau festival, mais de proposer un réseau d'événements partout en France et en Belgique. Chaque fête sera autonome, façonnée par les personnes qui souhaitent lui donner vie et horizontale, permettant de visibiliser, je cite encore, l'ensemble des travailleurs et travailleuses de la bande dessinée, sans hiérarchie de notoriété, dominance de métier ou mise en compétition des ouvrages. On mettra le lien lien vers l'événement. L'affiche de l'événement est signée de l'autrice Anouk Ricard, qui était lauréate du Grand Prix d'Angoulême en 2025 et qui a été dévoilée hier. Toutes les infos sont à retrouver sur le site girlsxcote.org.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On arrive à la fin de ce book club de France Culture consacré à ce roman Aval qui est lauréat du prix du roman des étudiants France Culture 2025, Sephora Pondy. Et à la fin de chaque book club, on joue à un jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales. Oui. En gros, on cherche tous les jours de la musique dans les livres. Et on propose à nos auditeurs et auditrices de chercher de la musique dans les livres, quels que soient les livres qu'ils sont en train de lire. Ils peuvent nous envoyer des photos via le compte Instagram du book club ou nous écrire lebookclub@radiofrance.com et on a comme ça une collection de pages musicales qui sont des extraits de textes où la musique apparaît. Or, la musique apparaît beaucoup dans Aval.
Oui.
Donc on a choisi un extrait où la musique apparaît. Est-ce que, avant de se quitter, vous voulez dire peut-être un mot sur la place qu'a la musique ? Vous nous avez dit votre goût pour la musique, mais la musique dans le corps du texte ?
Alors, j'avais envie que la musique, quand elle apparaît dans Aval, soit comme une sorte de bande-son de la scène, ce qui est encore, une fois de plus, très cinématographique. Mais j'avais envie presque que les gens puissent s'y référer et lire en écoutant.
Cet été, je suis travaillée de partout. Mes doigts sont lestes. Dès lors, le plaisir sera constamment tu et guetté dans le secret. Sauf cet après-midi d'août où il m'inonde. Il s'incarne dans la lumière du balcon, la voix suave d'un chanteur né pour charmer, dans la danse avec l'ami de toujours. À vivre nos premiers symptômes, sugar. How you get so fly. Sugar, sugar. How you get so fly. Sugar, sugar. How you get so fly. Jenya hausse le son et chante faux. Je ris et tourne sur moi-même. Mes reins suivent le mouvement, mes bras fendent l'air et je fais rouler mes poignets.
Sugar, how you get so fly? Sugar, 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 sugar, how you get so fly?
We hold us together when we ride, we're bringing raw high. Doing what we do, watching screens, getting high. Girl, you keep it so fly with your sweet honey buns. You was there when the money gone, you be there when the money comes. Off top, I can't lie, I love to get blow. My little sugar, I'm your little chulo. And every time we kick it, it's all to the groovy. Treat you like my sticky icky or my sweet ooey gooey.
Got me lifted, shifted, higher than the ceiling. And ooey is the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly?
Ça danse en studio, ça danse en régie. Voilà, c'était une émission joyeuse. C'était une émission pour vous remettre le prix. Vous l'avez eu à la Bibliothèque Nationale de France. Sephora Pondy, encore bravo. Merci beaucoup aussi d'avoir joué le jeu de cette grande aventure du prix Roman des étudiants France Culture pour Aval, paru aux éditions Grasset. Et franchement, c'était un baptême réussi. Bravo, ouais, bravo, bravo Mathilde Roquieta, bravo Vivien Grandjean, merci beaucoup. Clémence Tanguy, vous avez été des super co-intervieweurs et co-intervieweuses. Merci. Au son, aujourd'hui, c'était Noé Chaban en Sweet Rose. À la réalisation, c'était Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, tout particulièrement aujourd'hui à Mathilde Wagman. Vous pouvez poursuivre la conversation et les débats, puisque finalement l'aventure ne s'arrête pas, sur le compte Instagram du Book Club, animé par Alexandre Alaï-Begovic.
Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly?